La peinture, je ne veux pas dire indicible, hein, parce qu'indicible suppose quelque chose de supérieur, hein, qui serait supérieur à tout ce qu'on pourrait dire. Non, je dis innommable en ce sens qu'on ne peut pas le nommer. Hein, c'est en deçà du verbal. Et pourtant, ça travaille. Hein, ça travaille la représentation. Et dès que je le nomme, je perds cette qualité d'innommable de la peinture elle-même. Et je crois que c'est là que se trouve, si vous voulez, un des ressorts de la passion des historiens de l'art pour la peinture. C'est que fait un historien comme ce que je fais en ce moment? Il discourt. Hein, il fait du discours, il produit des mots. Il a un procès verbal de la peinture. Il a un procès verbal de quelque chose qui échappe à tout procès verbal. Bien, essayez de dresser procès verbal d'un tableau, vous n'y arriverez pas, parce que vous n'obtiendrez rien par rapport au tableau. Et donc, le résultat de cet innommable de la peinture, c'est que la peinture est toujours dans le statut d'objet du désir, puisque je prends comme objet d'étude de décrire ou de parler sur la peinture, qui est ce qui échappe précisément à l'écriture ou au discours. Et je n'ai que des mots, hein, pour essayer d'en rendre compte, en sachant pertinemment que ces mots ne rendent pas compte de l'émotion qu'il y a, parce que vraiment l'émotion n'est pas verbale. Donc c'est infini, c'est onodénaïde, hein, je pourrais toujours remplir des mots, je n'atteindrai jamais la qualité spécifique de l'émotion d'un tableau de peinture. Donc même quand le tableau ou la fresque a été comprise, y revenir, hein, ben c'est affronter à nouveau ce silence de la peinture.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Nous voici donc prévenus, et qui plus est, par le merveilleux historien d'art que fut Daniel Arras, lui qui savait si bien nous parler de ses œuvres de prédilection. Ainsi, les simples mots ne peuvent jamais rendre compte de ce qui s'inscrit sur une toile, ni même de ce que nous ressentons lorsque nous nous y perdons dans une contemplation vibrante, indicible ou plutôt innommable, innommable au sens de ce qui ne peut être nommé. Cette émotion, ce remue-ménage intime qui nous arrête, nous suspend hors du temps, hors de nous, devant un tableau. Les nymphéas de Monet, évidemment, ont ce pouvoir de nous faire littéralement perdre pied dans la couleur. Aussi, le soleil d'Edouard Munch, dont l'explosion de couleurs semble nous aspirer vers le trou noir en son centre. Plus discrète et pas moins hypnotique est l'attraction douce mais irrésistible que provoque la contemplation d'une vue du lac Léman, réalisée vers 1904 par le Suisse Ferdinand Hodler, où le bleu de l'eau et du ciel donnent envie de se noyer dans cette sereine douceur. Trois artistes qui ne se sont jamais croisés, qui ne se sont même jamais cités et dont l'approche très différente de leur art saute immédiatement aux yeux. Monet, Munch, Hodler, contemporains de cette aube du XXe siècle qui verra naître l'abstraction. Tous trois sont exposés côte à côte, avec une vingtaine de toiles pour chacun, sous l'intitulé « Peindre l'impossible » dans le très beau musée Marmottan-Monet à Paris jusqu'au 22 janvier 2017. C'est l'historien de l'art Philippe Dagen, dont on aime à lire les toujours passionnantes critiques dans Le Monde, qui nous propose cette approche de trois univers picturaux qui, par des moyens différents, ont affronté cet impossible, regarder le soleil en face et tenter d'en rendre les irisations sur l'eau et sur la neige. Le musée Munch d'Oslo a prêté des toiles étonnantes, tandis que l'accrochage d'œuvres particulièrement intéressantes de Ferdinand Hodler permettra à beaucoup de découvrir ce peintre peu connu en France. Philippe Dagen, qui publie ces jours-ci chez Gallimard, artiste et atelier, passionnant portrait d'artiste contemporain, est aujourd'hui l'invité de l'humeur vagabonde.
So many heartbreaks. So little time Too many tragedies Too many crimes Put on your body armor Prepare your alibi Cause there is no one else Gonna put it right To the rescue Down the streets and alleyways Past the Chinese takeaways Through sleeping in my bed. I looked for Marilyn. I got Jay instead. Yes, I did. But I'll march behind you wherever you may go. And I'm more proud of you than you can ever know. To the rescue, through the snow and freezing rain, down deserted country lane.
Ce qu'il veut peindre, c'est pas des choses, c'est pas des objets, c'est pas des paysages, c'est l'air qu'il y a entre tous les éléments. Et que ça, dit-il, c'est du domaine de l'impossible. Et donc, en 1895, c'est quand même un homme qui est déjà, pour cause, né en 1840, 55 ans, et à l'époque, c'est un homme âgé. Hein, ça lui est intolérable. Reste que, jusqu'en 1926... l'impossible va être à l'ordre du jour.
Bonjour Philippe Dagen.
Bonjour.
On vient d'entendre Pascal Bonafoux qui parlait en 2012 de se peindre l'impossible, qui était la devise de Monet, mais qui est également le sous-titre de cette exposition que vous avez organisée au musée Marmottan sur ces trois peintres dont nous allons parler maintenant, Monet, Munch et Odler. Peindre l'impossible, au fond, c'est la devise de tous les peintres, pas spécialement de ces trois-là. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu envie de les associer, alors que je disais au début de l'émission, ils ne se sont jamais rencontrés, jamais cités, et ils ont des approches de l'art assez différentes.
Je ne suis pas sûr que l'on puisse dire que ce serait une question qui s'applique à tous les peintres, en particulier pas à ceux des époques anciennes, en tout cas. Ce qui les réunit, et c'est précisément une question historique, c'est qu'au moment où ils sont à l'œuvre, par exemple, il y a d'autres manières de représenter le monde que la peinture. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement neuve à la fin du 19e siècle. Donc, l'impossible, c'est aussi d'entrer en compétition, à certains égards, avec la photographie. Puis ce sera un petit peu plus tard d'entrer en compétition ou en rivalité avec le cinéma. Et de se sentir sans doute menacé. Enfin, on sait bien à quel point les peintres, à partir du milieu du 19e siècle, ont eu des rapports équivoques avec la photographie, s'en servant et s'en méfiant terriblement. Donc, l'impossible en ce qui les concerne, ce sont des choses extrêmement quotidiennes, extrêmement simples. Parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose de beaucoup plus simple que l'eau ou le soleil ou même la neige. Indépendamment de tout symbolisme, indépendamment de tout récit, ce sont des tableaux qui ne racontent absolument rien. Ce ne sont pas les allégories non plus, même si Munch et Odler ont très souvent peint des tableaux allégoriques. À la circonstance, ce n'est pas ce qui nous retiennent. Donc, prendre des choses extrêmement simples et se demander à leur propos si cette vieille manière de travailler avec des couleurs, un bout de tissu tendu sur un châssis de bois, ça a encore du sens, ça a encore une possibilité. Ou si, en effet, il serait plus raisonnable et certainement beaucoup plus reposant de s'en remettre à d'autres techniques pour essayer de voir le monde.
Est-ce que, si je vous entends bien, Philippe Dagen, ça veut dire que ces trois peintres ont à leur manière provoquer un scandale, c'est-à-dire proposer au public des toiles dans lesquelles il n'y avait pas de récit, souvent pas d'êtres humains, qui sont, au début, on peut penser, des paysages et qui, peu à peu, deviennent des explosions de couleurs.
Ils ont été tous les trois, pour des raisons différentes, poursuivis par le scandale, poursuivis par la réprobation. Bon, de Monet, tous les auditeurs français, en tout cas, le savent, à cause de la légende de la première exposition impressionniste, de l'invention même du mot impressionnisme, qui est un sarcasme, qui n'est pas un terme d'histoire de l'art. Baudelaire a eu des problèmes moindres, mais néanmoins, j'allais dire, tout de même assez considérable en raison de tableaux dans lesquels il était plus ou moins accusé de ne pas respecter la pudeur. Mais il s'agit pas, là, il s'agit plutôt d'un tableau comme La Nuit, en raison de la présence des nudités. Quant à Munch, on pourrait dire que son existence entière a été considérée par ses compatriotes comme un scandale. C'est sa façon de vivre, sa liberté, un certain nombre d'épisodes plus ou moins dramatiques de son existence et ses tableaux. Alors là, en effet, dans l'exposition, il y a un certain nombre de tableaux de Munch qu'il n'a d'ailleurs même pas, pour certains d'entre eux, montré de son vivant, tant je pense qu'il était profondément convaincu qu'ils étaient incompréhensibles. N'oublions pas que la même aventure ou mésaventure est arrivée très régulièrement à l'œuvre de Monet, et que même à la fin de sa vie, les nymphéas à l'orangerie, sans un certain nombre de soutiens politiques, c'était pas gagné du tout. Et Monet était à ce moment-là un homme de 80 ans, dont les œuvres figuraient dans tous les musées.
Alors, il y a eu, évidemment, pour Monet, on sait bien qu'il a été l'un des pères de l'abstraction. Il y a eu d'ailleurs une exposition à Marmottan en 2010, Monet et l'abstraction. Mais c'est vrai qu'on voit l'évolution de Monet vers ça, vers la non-représentation figurative. Mais pour les deux autres, parfois, c'est plus compliqué.
Pour Baudelaire, c'est plus compliqué dans la mesure où c'est plus compliqué, c'est en un sens plus simple. Baudelaire part du principe que, en un sens, Mondrian applique aussi à sa manière, qui est qu'un tableau doit être construit par des rythmes, par des lignes géométriques, droites ou courbes, et qu'il y a une question de composition, pour ainsi dire, musicale du tableau, qui est centrale. Alors ensuite, cela effectivement devient la trame d'un paysage, ou devient cela la trame de toute autre chose, mais il reste cette idée d'une structure géométrique. Baudelaire a même pensé opportun à un certain moment de se faire le théoricien, heureusement ça n'a guère duré, d'un système qui aurait été le parallélisme, selon lequel il fallait qu'un certain nombre de lignes parallèles organisent la surface du tableau. Ce qui est, à proprement parler, une réflexion sur une sorte d'ordre invisible sous le visible que la peinture devrait être en mesure de révéler. Quant à Munch, il y a dans certains de ses tableaux, que je d'ailleurs, à vrai dire, j'ai aussi choisi pour cette raison, des passages, des parties, où je crois qu'on serait bien en peine de dire ce que c'est, si l'on entendait par là dire « je reconnais ceci, je reconnais cela ». Le tableau sur lequel se clôt le parcours, les solitaires, bon, évidemment, on y reconnaît deux figures de dos, le reste... S'agit-il de rochers? S'agit-il de nuages? S'agit-il simplement de taches de couleur? Je me refuserais absolument à me décider en faveur d'une solution, convaincu que toutes sont également valables et probablement insuffisantes si on les considère séparément.
Philippe Dagen, vous avez regroupé ces tableaux en trois zones. L'eau, le traitement de l'eau, le traitement de la neige, le traitement du soleil. On va écouter Christian Lassalle, qui est un historien d'art, nous parler d'un des tableaux de Monet qui figure dans cette exposition à Marmottan. C'est le tableau La Barque qui a été réalisé en 1887.
C'est un tableau complètement vert, mais surtout à dominante sombre, des verts émeraudes, des verts tendres, des verts hauts, des verts qui tirent vers le jaune, Ce tableau est donc aux trois quarts occupé par cette verdure. Le dernier quart, en haut à droite, est occupé par une barque dont les rebords sont essentiellement gris, bleutés, avec des petites dominantes violettes. Toute la surface de ce tableau carré, très dense, est la surface de l'eau, sans que cette surface soit réellement apparente. Et c'est à la fois très touchant, mélancolique et, je dirais, aspirant. On est donc au-delà de ce stade. Seul, en haut du tableau, au-dessus de la barque, il y a un feuillage. Et cette branche de feuillage, elle indique le lieu où se trouve le spectateur. Nous sommes donc dans le même espace que celui du peintre. Rien de ce tableau ne se dresse pour faire un effet de relief ou un effet de miroir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes contents devant un tableau quand il réfléchit quelque chose du monde ou de nous-mêmes qui nous satisfait. Et quand on est devant un tableau qui ne réfléchit pas ce que nous attendons, car nous sommes assez conventionnels dans l'ensemble, eh bien nous sommes dérangés par le tableau.
Philippe Dagen, c'est vrai qu'on se rend compte en déambulant dans les salles de Marmottan que Monet est celui qui a le plus travaillé sur cette notion presque d'abstraction, ou en tout cas, le spectateur ne peut pas se raccrocher à quelque chose de carré, d'évident. Chez Baudelaire, chez Munch, on a plus une approche presque plus traditionnelle que celle de Monet.
Oui, attendez. D'abord, je dois vous dire que je ne suis absolument pas d'accord, mais alors absolument pas d'accord, avec la description qui vient d'être faite du tableau qui donnerait à penser qu'il a été regardé de manière un peu hâtive. Quant à dire, par exemple, qu'il n'y a pas de question d'espace et de profondeur dans ce tableau, c'est juste si on ne s'est pas rendu compte que non seulement il y avait une densité de l'eau, mais que cette supposée verdeur était celle des herbes aquatiques dans l'eau, et que certaines de ces herbes, pour qu'on les voit mieux, mais apparemment pas suffisamment, Monet les avait peintes en rouge. Donc, je crois que on a un bon exemple ici de ce que l'on gagnerait à mieux regarder les tableaux avant de prétendre en parler. Pour revenir à votre question, je ne suis pas certain qu'il faille se laisser totalement obsédé par la question de l'abstraction et d'un cheminement nécessaire vers l'abstraction, même si je comprends bien que dans les années de l'entre-deux-guerres, ou à plus forte raison aussitôt après la Seconde Guerre mondiale, quand les artistes américains ont commencé à se réclamer des nymphéas de Monet, c'est-à-dire en réalité ont commencé à pouvoir avoir accès aux nymphéas de Monet, qui très longtemps étaient restées des choses plutôt méconnues, on est allé dans ce sens. Mais l'idée que le tableau puisse être construit de manière abstraite tout en accueillant quelques petits repères de ce que l'on appelle figuratif, c'est aussi propre à Baudelaire. Baudelaire raconte à propos de je ne sais plus quelle chaîne de montagne que la manière dont il aimait à la regarder pour bien en apercevoir la structure, c'est à l'envers entre ses jambes. Ce qui tente à prouver que la question du haut et du bas lui était relativement indifférente. Ce qu'il cherche, c'est une structure. Ce n'est pas un panorama ni une table d'orientation. Quant à Munch, le soleil, les différentes versions du soleil comportent des parties dans lesquelles Munch, qui était extrêmement passionné par les questions scientifiques, par les recherches et les découvertes des physiciens de son temps, s'est demandé qu'est-ce que la peinture pouvait faire, par exemple, par rapport à la question des ondes. Comment peindre la circulation des ondes lumineuses dans l'air ? Et vous voyez que quand on dit que Monet peignait l'air entre les objets, on pourrait dire exactement la même chose de Munch, si ce n'est que Munch s'efforce de peindre non seulement l'air, mais les éléments impalpables qui traversent l'air. Il y a également une sorte de réflexion presque en rayographie. Il était passionné par les Röntgen, par les rayons X, par cette idée que ce que l'œil humain percevait en surface était somme toute très peu par rapport à la matérialité profonde des objets. Et que donc, si la peinture devait continuer à exister, il fallait qu'elle s'empare de cette matérialité profonde au sens précisément où les découvertes scientifiques permettaient de la comprendre et, au fond, abandonne les questions déjà mille fois traitées de la surface. Ils sont les contemporains de peintres comme Delaunay ou Kubka en France, qui s'intéressent à l'optique, qui s'intéressent à l'atomisme et qui se demandent, au fond, on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, est-ce que ça a vraiment encore un sens de peindre les choses, étant donné que nous savons désormais ce qu'elles, un peu mieux ce qu'elles sont, et que la vue humaine ne pourra jamais véritablement pénétrer. Donc, est-ce que la peinture peut être en somme plus lucide que l'œil humain en donnant de la physicalité, de la substance des choses, une idée plus complète et en même temps plus pénétrante que ne le serait la représentation d'un arbre ou d'une femme nue?
J'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Près des mines de Salta, il ne nous fallait qu'une heure et trois jours. 2000 ans que j'attendais ça, qu'on me dise de tels mots d'amour. Tu mets la barre un peu plus haut, tu mets la barre toujours plus haut chaque jour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. À la fois trop plouc et trop chic pour une fille comme toi. Boum, 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 boum. Reine des Palamides. Reine des Palamides. Demi-mille ans que j'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Je serais ta que non, crois-moi, je serai ta Chita, mon amour.
Chiquita, chiquita, chiquita.
Je serai ton Alexandrie, pourquoi pas ton Magnon, là pour toujours. 2000 ans que j'attendais ça, matin et soir et le midi, mon amour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop plus que trop chic.
Si me lo decían hace 2000 años no lo creía. Cantando con un francés acabaría. Mucho menos cumbia, rap y boom boom boom. Escribir canciones tomando cerveza y Coca-Cola con rum. Me dice que le encanta cantar conmigo. Todo es casi ridículo, de película te digo. Mi romántico cantante francés estaría escuchándote las 24 horas de los 31 días del mes. Me dice que soy la reina de Palermo, Queens. Yo le dije que no soy cantante, que soy actriz. Si me lo decían hace 2000 años no lo creía. Escuchando La Mona Jiménez con Benjamín Violet terminaría. Me encanta ser su reina de Palermo, Queens. Y pareciera que absolutamente todo es posible en París.
Ok, mais tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop plouc et trop chic pour une fille comme toi. Reine de Palermo Queens. Et reine de Palermo Queens.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Baudelaire, c'est vraiment c'est un Monet alpin, ou c'est un Cézanne des lacs, comme on préfère, parce qu'il partage avec Monet et avec Cézanne à la fois une obsession sur un motif. Le motif, c'est sa Sainte Victoire, à lui, c'est à peu près toutes les montagnes de Suisse. Mais peut-être plus encore Monet, parce que il y a vraiment ces montagnes. Oui, c'est comme des nymphéas, il y a des variations infinies. À la fin de sa vie, il va faire toujours du même balcon des vues à l'infini. C'est pas une peinture qui recherche le sublime. C'est pas le peintre des brumes qui font se dissoudre la géologie, pas du tout. Et en ce sens, il y a un des tableaux qui est la Jungfrau. Cette fois, on n'est pas au lac Léman, vue de Mürren, c'est en face, de l'autre côté de la vallée. Et là, c'est typique, c'est le sommet d'une montagne. On en voit juste les rochers, il y a un peu de brume comme ça, quelques nuages, mais ce qui est beau dans ce paysage, c'est qu'on a l'impression que sous ces quelques nuages, il y a une espèce de feu qui semble couver, qui est déjà en train d'irradier la montagne, donc qui donne un côté très bouleversant à cette montagne. Ça en fait une montagne très mélancolique, mais c'est pas non plus la montagne couverte de brume peinte par Friedrich. Donc de même que Turner, je crois, a inventé le brouillard sur Londres, je pense qu'en revanche Hodler a vraiment inventé la montagne suisse.
Philippe Dagen, on vient d'entendre Vincent Huguet, qui est un autre historien d'art. Peut-être qu'il va vous agacer autant que les deux précédents. Mais il nous parle d'Hodler. Et moi, la question que je me posais, c'est, bon, pour le grand public, Monet, Munch, ce sont des géants de la peinture. Qu'est-ce qui fait que pour vous, Hodler peut entrer dans ce club si fermé? C'est un peintre qu'on connaît peu ici. Qu'est-ce qui fait que pour vous, il pouvait être accroché sans en souffrir aux côtés de Munch et de Monet?
Oh, mais c'est pas du tout en ces termes que la question s'est posée. Moi, je vous retournerai volontiers votre question. Comment se fait-il qu'en France, on connaisse si mal Hodler?
Il n'a pas eu droit à beaucoup d'expositions.
Non, mais la France est quand même un pays où les têtes sont dures. Il est beaucoup mieux connu en Allemagne, il est beaucoup mieux connu aux États-Unis, pour ne pas parler de la Suisse, qu'il n'est connu en France, où probablement l'espèce de religion nationale de l'impressionnisme a fait obstacle à la connaissance de toute la peinture qui était contemporaine de l'impressionnisme. Alors, l'impressionnisme, c'est très bien, mais ce n'est pas toute la peinture, particulièrement dans les années 1890. Donc je disais, la question s'est posée dans des termes différents. À l'origine de l'exposition, et c'est Hodler qui se trouve, et pas les autres. J'étais allé voir une exposition Hodler, une rétrospective Hodler, la Fondation Beyeler à Rien, et j'avais écrit dans Le Monde que devant certains tableaux d'Hodler, on se demandait quels seraient au fond les échos qui se manifesteraient si on les accrochait à côté de certains tableaux de Monet. Et c'est cette phrase qui a alerté Patrick de Carolis, qui m'a téléphoné des années après pour me demander si je tenterais l'expérience. Et ce n'est qu'en y réfléchissant qu'il m'a semblé précieux d'y ajouter Munch pour avoir à la fois un contrepoint et une troisième direction, puis éviter ce qu'un face-à-face aurait d'absolument mécanique. Mais j'avoue avoir beaucoup de peine à comprendre aujourd'hui comment on peut ne pas être convaincu de l'importance de l'œuvre d'Hodler. Alors, si ce n'est qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui regardent plutôt avec leurs oreilles qu'avec leurs yeux, et donc n'ayant pas entendu parler d'Hodler, ne comprennent pas. Et encore, ce que je montre là n'est qu'une partie relativement réduite de son œuvre. C'est probablement, et là-dessus, je suis assez d'accord avec Huguet, pour le coup, c'est probablement en effet l'un des paysagistes avec Cézanne les plus importants de la période fin 19e, début 20e siècle. C'est quelqu'un qui a poussé l'expérience à tous les niveaux très loin. Si Hodler peint la Jungfrau au-dessus d'une mer de nuages, c'est parce qu'il s'y rend. Parce que il y a aussi un côté presque excursionniste dans son travail, c'est-à-dire se confronter au motif, à la réalité du motif, comme Cézanne. Là-dessus, ce sont des artistes qui considèrent que la peinture, si elle a encore un sens, ne l'a que dans une confrontation physique, éventuellement même douloureuse, avec le motif. Hodler ne craint pas de monter et installer son chevalet à la moraine d'un glacier à haute altitude pour, si j'ose dire, trivialement, voir à quoi ça ressemble. Comme Monet imagine en février en Norvège d'aller peindre en plein air, ce qui peut nous apparaître comme une idée extrêmement singulière et dont il a éprouvé d'ailleurs physiquement tous les désagréments. Donc Odler est un homme de l'engagement total dans une expérience picturale où, d'ailleurs, oui, c'est-à-dire où il se met en danger. Et d'ailleurs, en fait, c'est assez vrai parce que il est des trois celui qui disparaît le plus tôt et le plus jeune. Je pense que les privations qu'il a endurées ne sont pas pour rien dans sa moindre longévité.
Alors, comme Monet, Philippe d'Agen, Odler peint par série, donc il peint toujours le lac, la montagne. Et puis, il y a parfois des tableaux surprenants. Alors, l'eau des lacs. Et puis, tout d'un coup, il y a dans l'exposition un tableau qui arrête parce qu'on n'aurait pas vu sa signature, on n'aurait pas compris que c'était Odler. Oui. C'est la femme courageuse.
Oui.
Et ça, c'est absolument surprenant. Parce que alors, c'est un traitement de l'eau. D'habitude, ces eaux sont plutôt calmes, les eaux des lacs. Et puis, il y a des nuées vaporeuses. Et là, on est dans un tableau vraiment étonnant. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
D'abord, il est vrai qu'on a souhaité qu'il y soit en raison de la stupeur qu'il provoque. C'est un Odler qui est un petit peu plus ancien que la plupart de ceux que l'on montre. C'est plutôt un tableau, non pas de sa jeunesse, mais de sa première maturité, alors que la plupart des paysages sont plutôt des tableaux des années 1900-1910. Mais elle est aux limites de l'espace. La démonstration serait pleinement complète si vous aviez une vague de Courbet, les Monet et les Munch, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un Munch presque cézannien sur le mur d'en face.
Qui s'appelle Les Vagues.
Qui s'appelle Les Vagues, et qui est un tableau totalement extravagant pour une autre raison, parce que là, on n'a jamais été aussi près d'une sorte d'abstraction géométrique dans l'œuvre de Munch, et le Odler. Mais vous pourriez ajouter que peut-être un Seurat serait aussi un élément intéressant dans la comparaison. L'idée de l'exposition, ce n'est pas de constituer un trio, ce n'est pas encore moins un palmarès ou une hiérarchie, ce qui paraît une manière de penser l'art désastreuse. Ça, c'est bon pour les ventes aux enchères, c'est tout. C'est de montrer comment des problèmes communs se posent à des peintres à une période commune et dans un contexte matériel, scientifique, littéraire aussi commun. Donc, en effet, d'autres artistes auraient parfaitement pu intervenir dans la conversation au même moment. Au fond, si on voulait transformer cette exposition en une sorte de dialogue imaginaire, ce serait du genre « Et toi, comment tu fais ? Et toi, comment tu t'en sors ?» Et alors, Odler arrive, et je ne vais pas vous imiter un accent suisse, dit « Moi, je vais essayer de dessiner les tourbillons, je vais essayer de donner le sentiment de la vague de manière très détaillée. » Quand Munch répondrait « Mais non, c'est dans le geste du peintre que doit être le rythme de la vague. » Et que Monet suggérerait que peut-être en faisant danser la couleur, comme les reflets, c'est une trivialité au demeurant, dansent sur l'eau, on arrivera peut-être déjà à quelque chose. Alors, on ne résoudra pas la question de l'impossible, puisque l'impossibilité est posée comme en effet un écran contre lequel on va toujours cogner, et qu'on ne franchira jamais. Mais on s'en approchera. Et puis ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de solution qu'il ne faut pas tenter de résoudre le problème.
D'ailleurs, ça fait penser à une phrase dans le catalogue de cette exposition. Vous avez écrit « Tantôt leurs solutions sont proches et tantôt elles diffèrent ». En fait, c'est ça qui vous a intéressé.
Mais bien sûr. Mais je pense que c'est une manière de regarder la peinture indépendamment des catégories. Vous avez bien compris que enfermer un peintre dans impressionnisme, symbolisme ou que sais-je d'autre, ça me paraît extrêmement réducteur, ne pas les enfermer dans une nationalité. Il y a un Français, il y a un Suisse et il y a un Norvégien, on s'en fiche. Ce qui nous importe, c'est comment ça se passe quand ils sont à l'œuvre. Le travail de la peinture, qui est une formule que Daniel Arras employait souvent et que Hubert Damisch a aussi souvent employé, le travail de la peinture.
Alors justement, ce travail de la peinture, Philippe d'Agen, il a beaucoup concerné les visiteurs parce que c'est, comme vous le disiez, des solutions sont proches, on voit des correspondances et puis de temps en temps on est arrêté par les dissemblances. En tout cas, c'est une exposition qui fait parler les visiteurs. Alors je vous présente Vinciane Lemonnier qui nous a
rejoint. Bonjour.
Bonjour Vinciane. Bonjour. Et qui a fait parler des visiteurs sur trois tableaux différents.
Oui, j'ai choisi trois tableaux de l'exposition que j'ai montrés à un homme et une femme, Thibaut et Juliette, donc de simples amateurs curieux et attentifs. Trois tableaux donc où les peintres Monet, Baudelaire et Munch se sont confrontés de manière différente à la figure du soleil, à ses rayons, ses éclats, son halo. Alors Thibaut et Juliette ont d'abord regardé Impression soleil levant de Monet, puis le soleil qui se lève derrière la chaîne du Stockholm avec Baudelaire, et enfin le soleil de Munch. L'occasion de croiser leurs regards et leurs ressentis face au défi artistique qu'est de peindre le soleil.
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 Éclat.
Éclat.
Reflet.
Reflet.
Je vois.
Je vois.
Je regarde.
J'observe.
J'observe.
J'ai l'impression.
J'ai l'impression.
Tableau 1.
Tableau 1.
Claude Monet, Impression soleil levant.
1872.
Je vois une tache d'un rouge intense à l'horizon sur un ciel bleu, gris et rougeoyant lui-même.
C'est l'image d'un port avec une barque au premier plan.
Je vois ou je devine...
Distingue au second plan des cheminées d'usine.
Paysage industriel.
Les fumées qui en sortent.
Le reflet également de cette boule rouge sur les flots.
On se demande un petit peu à quel moment de la journée ça se situe. C'est étonnant parce que ça s'appelle Impression soleil levant, donc on imagine plutôt que c'est le matin. Et moi j'ai déjà vu des ciels comme ça le soir, juste avant que le soleil se couche.
Cette boule rouge, c'est le soleil.
Couleur rouge, rouge vif.
Et qui donc semble guider ses bateaux, même les aspirer, les attirer vers lui. Au
il en a vraiment fait une toute petite bille hein, au milieu du tableau, une bille
c'est
rouge,
une grande simplicité orange. Et du coup d'une grande puissance justement du fait de cette simplicité.
Qui contraste totalement en fait avec le reste du tableau.
C'est un cercle parfait, tout simple, d'un rouge quasiment uniforme.
J'ai presque l'impression que c'est une percée comme ça, un trou au milieu du tableau.
Mais qui du coup attire le regard, enfin, c'est vraiment le point focal de cette toile.
Une petite bille en fait au milieu du tableau mais incandescente.
Et donc c'est vers lui qu'on plonge immédiatement.
Moi, je trouve ce tableau très apaisant.
Je me sens moi-même...
Une sensation de calme.
Aspiré, attiré et intrigué aussi.
Ce rose, ces bleus, c'est des couleurs un petit peu du rêve.
J'aurais envie, oui, si j'étais au bord de l'eau, d'emprunter un de ces bateaux et de suivre le fil de ces bateaux pour aller vers cette boule rouge.
Ouais, on est assez contemplatif, en fait. Moi, c'est ce que ça me procure.
Lumière.
Lumière.
Peinture.
Peinture.
Histoire de soleil.
Histoire de soleil.
Éclatant.
Éclatant.
Éblouissant.
Diffus. Diffus.
Tableau 2. Ferdinand Hodler. Le lac de Thun et la chaîne de Stockholm.
1905. Alors le premier plan est vraiment étrange. Est-ce que c'est une multitude de petits trous qu'il y a devant?
Je vois une étendue d'eau.
C'est assez irréel hein, comme paysage. Un lac.
Très calme.
Couleur turquoise.
Lisse.
On dirait presque un fond de lac, en fait.
Au deuxième plan, une chaîne de montagnes.
Avec des petites dents ciselées.
Avec quelques neiges éparses qui restent.
Pour désigner les sommets, donc... Au fond, en fait, toute la toile, c'est une lumière du soleil assez jaune.
Donc ça évoque plutôt oui, les paysages du nord où la lumière est un bien plus rare et peut-être plus précieux.
Le soleil, en fait, il est absent. Néanmoins, bah, il diffuse sa lumière.
Le soleil est quelque chose d'attendu, de pas évident, un bien justement peut-être précieux parce que rare.
C'est vraiment étonnant, quoi.
Et que du coup, cette chaîne de montagnes...
C'est vraiment très très beau.
Arrête le regard et fait obstacle à la lumière et à l'accession à la lumière.
Il met en valeur la beauté de la nature.
On a un bleu presque glacial, donc des teintes assez froides, donc à l'exception de cet halo de lumière qui se dessine à l'arrière-plan, à l'horizon, qui semble annoncer une saison nouvelle.
Je trouve ça beau.
Une sensation à la fois d'isolement du fait de cette froideur en fait et puis de cette étendue qui semble complètement vierge de toute vie humaine, une impression de solitude.
Ouais, le calme.
Qui pourrait être angoissante s'il n'y avait pas la lumière qui pointait son nez à l'horizon en fait. Donc là aussi, il y a un espoir qui se dessine derrière les montagnes. Immatériel.
Immatériel. Insaisissable.
Est-ce possible?
Est-ce impossible?
Est-ce impossible?
Décomposer.
Découper.
Aveuglant.
Peindre le
soleil. Tableau 3.
Edvard Munch, Le soleil, 1912.
La, l'impression visuelle est vraiment très puissante.
Waouh, mais qu'est-ce que c'est ?
La couleur, la lumière nous arrive dessus.
Qu'est-ce qui se passe à la surface de cette toile ?
Ah oui.
Je sais pas, comme si une météorite ou une comète venait en fait.
On serait au milieu d'un champ d'astéroïdes, mais.
Quelque part, essayer de briser la surface de la toile.
Ces astéroïdes-là seraient des couleurs.
Quelque chose de presque incontrôlable.
Il y a en plus des lignes de fuite qui nous dirigent tout droit vers le cœur de l'astre. Le personnage central, c'est le Soleil. On le voit au milieu, il éclate. La lumière est rendue en explosion avec des petites taches vertes.
Plusieurs nuances de jaune, du plus pâle au plus mordant.
Orange, bleu.
Il y a du blanc aussi, donc c'est aussi un extrême dans la palette des couleurs.
Alors le paysage autour, il valdingue complètement.
Un paysage qu'on devine de verdure, peut-être de collines.
En fait, on perd nos repères.
C'est plus diffus.
Là, d'un coup, tout se met à tanguer. Et finalement, il n'y a que le soleil qui vient structurer la toile. Mais le regard est vraiment happé par le centre.
C'est géométrique.
Un côté très optique.
On dirait aussi presque le motif d'un vitrail, en fait, avec la lumière qui viendrait justement passer à travers chacune de ces flèches.
Moi, j'ai presque l'impression qu'on voit un nombril, en fait, un ventre. Il inonde la toile comme un soleil fécond. C'est comme un soleil nourricier.
On peut pas aller plus loin que cette scène-là où si on voit ça, on aura tout vu en fait. C'est quelque chose qui emplit tellement le regard qu'on est saturé quelque part.
C'est vraiment une toile pleine de vitalité.
Une sidération en fait face à cette explosion de couleurs et de lumière.
Je le vois comme ça.
Merci beaucoup Vinciane pour ce reportage. Philippe Dagen, vous avez envie de parler sur les...
Non, enfin, les tableaux appartiennent à tout le monde, et en particulier aux regardeurs, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, une chose, simplement, sur le soleil de Munch, j'avoue que l'idée du motif du nombril n'était vraiment pas venue à l'idée, mais enfin, pourquoi pas, chacun voit ça à l'aune de sa biographie. Ce qui m'étonne, par contre, c'est qu'il n'ait pas pensé au motif de l'œil.
Oui.
Alors que ce pays
ressemble à une pupille.
Ben oui, ouais. Et oui, ce soleil qui est blanc et qui a une tache sombre au milieu, c'est la pupille et c'est l'iris. Et enfin, ça peut être et le paysage qui disent un peu en vrac, c'est le rebord. Enfin, on peut le concevoir comme le rebord inférieur d'une paupière. Et l'œil qui fait face au soleil, ce qui est évidemment physiquement impossible, se projette sur le soleil lui-même qui devient l'œil qui regarde le peintre. Enfin, il y a une sorte de va-et-vient entre les deux puissances. Enfin bon, chacun est libre de ressentir la chose. Et ce qui me semble satisfaisant, en tout cas, c'est que vos interlocuteurs, visiblement, étaient assez, comment pourrait-on dire, enfin, vibrants.
Mais effectivement, on s'implique beaucoup. C'est pas une exposition qui nous laisse en dehors, Philippe Dagen. C'est ça, pour ça que c'est réussi aussi. Alors là, on a abordé avec les visiteurs interrogés par Vinciane Lemonnier le thème du soleil, parce que les trois peintres se sont confrontés à la lumière, mais d'une manière différente, puisque Monet comme Baudelaire, à part Impression soleil levant de Monet, mais c'est un soleil donc levant. Oui, il a longtemps été considéré comme couchant, mais enfin, c'est un soleil que l'on peut regarder sans être ébloui. Louis. Baudelaire, lui, il s'occupe du reflet du soleil sur la neige, sur les sommets, sur l'eau des lacs. En fait, le seul à avoir affronté le soleil en face, c'est-à-dire avoir voulu vraiment peindre l'impossible, c'est Munch. Et ça tient aussi à ce rapport si particulier qu'il avait avec cet œil qui a été longtemps malade.
Les tableaux du soleil en face sont antérieurs à son problème Dieu, qui au demeurant a été relativement bref, puisque il a en effet souffert à un certain moment d'une hémorragie et qui a créé une espèce de macule sur l'œil, qu'il a d'ailleurs essayé de dessiner
avec des têtes d'oiseaux.
Il a son regard troublé et il fait le rapport scientifique au fond du trouble de la perception. Ensuite, les choses se sont rétablies et jusqu'à la fin de sa vie, il n'a plus eu de problème de vision. Là, on touche à une question qui est extrêmement délicate, parce que chacun sait que Monet également a eu des problèmes de vision, qu'il a été, quant à lui, opéré successivement des deux yeux. Donc, la question de la perception physique telle que l'artiste l'a ressentie en lui-même, il est évident que nous n'en saurons jamais rien. Et que qu'entre cette perception physique et ce que nous voyons s'interpose, il faut bien le dire aussi, tout un travail et une série de transpositions, de métamorphoses, telles que l'idée d'un diagnostic me semblerait impraticable. Ce qu'on voit, c'est quand même de la peinture. Ce n'est pas le cliché de Noftalmo. Mais ceci étant, il est vrai, pour revenir à votre question, que Munch s'est engagé au-delà de ce que les deux autres avaient tenté. Hodler est probablement le plus, je ne sais pas si on peut dire le plus prudent, mais ce que disaient d'ailleurs ceux que vous avez interviewés, c'est qu'il peint plutôt l'effet du soleil en train de se lever que le soleil lui-même, ce que Monet a aussi fait, soit au lever, soit au coucher, parce que ni l'un ni l'autre n'ont probablement pensé possible, on revient toujours à cette idée-là, de tenter l'expérience du soleil. Et là encore, on parlait des élargissements possibles de l'exposition. Si on avait pu rajouter un quatrième homme, vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'était à peu près impensable, ça aurait été Van Gogh. Puisque le seul autre peintre qui ait essayé de peindre le soleil en face, et ça pour le coup, Munch en 1912 le savait, c'est Van Gogh. Et c'est d'ailleurs le seul aussi qui ait essayé de peindre comme Munch les planètes la nuit, ce qui paraît une tentative, pour ainsi dire, totalement extravagante au regard de ce que l'œil humain peut percevoir.
D'ailleurs, il y a un tableau de Munch dans l'exposition, hein, Philippe Dagen, qui sent l'inspiration de Van Gogh. La nuit...
La nuit étoilée de Munch est une nuit étoilée. Alors, différente de celle de Van Gogh qui lui peint au-dessus du Rhône, alors que Munch peint au-dessus de la neige. Mais oui, bien sûr. Mais là, on compose avec la réalité du monde des musées, tout simplement.
En tout cas, on se console volontiers avec les prêts formidables du musée Munch d'Oslo. Parce que pour les Français qui n'ont pas visité ce super musée, il y a des tableaux qui sont peu connus, peu représentés. Souvent, ce qui sont des tableaux assez figuratifs de Munch à Paris, notamment le fleuve qu'il a peint.
Oui, ça date de son séjour parisien, quand en effet, il regarde d'assez près l'impressionnisme. C'est d'ailleurs assez rapidement pour s'en détacher. Mais c'est aussi, pour revenir à un point que vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est la question de la série. C'est-à-dire que Monet, les peupliers, les meules, la cathédrale de Rouen, Monet peint par série, Hodler peint par série, et Munch, à plusieurs reprises, constitue lui aussi des séries, puisque par exemple la scène à Saint-Cloud, il se place à peu près toujours au même endroit. Il y a un petit arbre qui n'est pas spécialement spectaculaire, une balustrade dont l'intérêt semble réduit. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est le même motif, le jour et la nuit. C'est-à-dire, comment perçoit-on l'espace dans la lumière et comment conçoit-on l'espace dans l'obscurité? Et on se rend compte, évidemment, que l'espace s'agrandit à mesure que la lumière baisse. Et dans le noir, on ne mesure plus les distances. Donc, tous les trois... C'est une bonne occasion que je saisis de le lire. Tous les trois ont en effet aussi en commun ce côté assez méthodique de leur travail. Ce sont des artistes qui sont très informés et influencés par l'état de la science de leur temps. Et donc, on détermine une expérience, on la répète, on modifie les conditions de cette expérience et le travail du peintre être dans la comparaison entre les différents états que chaque tableau manifeste. D'où d'ailleurs le désespoir de notre pauvre Monet quand il est en Norvège. Parce qu'il est en Norvège, outre le fait qu'il fait un froid de loup, enfin ça il aurait quand même pu s'en douter, il se rend compte, il veut peindre la neige, il se rend compte que de quart d'heure en quart d'heure, le motif, son fameux motif, change. Donc il commence un tableau, au bout d'une demi-heure, c'est plus ça du tout. Mais s'il arrête et s'il en prend un autre, il sait très bien qu'une demi-heure après, ça sera pas non plus ça du tout. Donc il se retrouve avec des tableaux commencés qu'il ne peut pas poursuivre, ou alors ce sera à l'atelier, donc de manière insincère. Vous voyez les équivoques dans lesquels il se trouve. Au moins Cézanne, étant donné la relative stabilité du beau temps, quand il va sur la Sainte-Victoire 3 jours de suite, avec un peu de chance, il va avoir le même motif, la même lumière. On pourrait presque dire, en la circonstance, que Cézanne se facilite la vie. Monet se la complique, et d'ailleurs, l'expression « peindre l'impossible », c'est aussi une expression qu'on retrouve dans sa correspondance de Norvège, où il inonde ses correspondantes de plaintes, de lamentations sur le fait que, qu'une fois de plus, il n'y arrivera pas, que c'est une catastrophe, qu'il n'aurait pas dû partir, etc., quoi. Le vrai malheur du peintre.
Je vous remercie, Philippe Dagen, d'être venu aujourd'hui nous parler si savamment de cette belle exposition que l'on peut voir donc au musée Marmottan-Monet jusqu'au 22 janvier. Elle se nomme Odler-Monet-Munch, peindre l'impossible. Il y a un très beau catalogue publié chez Hazan. Et je rappelle à ceux qui sont des fidèles de vos critiques du journal Le Monde que vous publiez Artistes et ateliers consacrés aux artistes contemporains chez Gallimard. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little TV was small, but oh my. Little TV was small, but oh my. He fought big Goliath.
Vagabonde s'en va sur la pointe des pieds, mais restez à l'écoute de France Inter, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière pour Les Saventuriers. Et quand, en ce qui nous concerne, si vous le voulez bien, nous aurons rendez-vous dimanche prochain, je recevrai Orly Castelblum, une romancière israélienne très intéressante. Très bonne journée à l'écoute de France Inter.